ça. Alors, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Je vais d'abord procéder à l'appel des présents. Chebillou est présent. Clotilde Lagoutte.
Présente.
Alain Véler.
Présent.
Stéphanie Charret.
Présent.
Didier Moreau est absent, excusé, représenté par André Palancade. Marina Descotes-Galli est absente, excusée, représentée par Stéphanie Charret, André Palancade.
Présent.
Anne-Marie Aulas est absente, excusée, représentée par Daniel Boudet. Claude Godard.
Présent.
Sylvie Galochet.
Présent.
Roger Cypré.
Présent.
Samira Boujidi, je pense, est absente. Jacob Nalouna est en retard, 15-20 minutes. Il a donné pouvoir à Sandrine Nagel pendant son retard. Simone Jérôme. Charles Murat est absent, excusé, représenté par Roger Cypré. Virginie Salitra est absente, excusée, représentée par Mehdi Ben Salem. Karine Jarry est absente, excusée, représentée par Simone Jérôme. Michel Veu est absent, excusée, représentée par Clotilde Lagoutte. Daniel Boudet.
Présent.
Pascal Lué est absent, excusée, représentée par Alain Véler. Sandrine Nagel. Et je vous propose de la nommer secrétaire de séance. Pas d'objection. Mehdi Ben Salem.
Présent.
Jean-Pierre Gavarrou.
Présent.
Monique Devillaine est excusée à donner pouvoir à M. Jean-Pierre Gavarrou. Catherine Eusdeviès.
Présent.
Serge Chaussier est absent, excusé, à donner pouvoir à Catherine Eusdeviès. Rachida Mouali est absente. Stéphanie Chut.
Présent.
Voilà, alors tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, donc, je vous informe que M. Decker a démissionné pour raison personnelle, m'a-t-il écrit, du conseil municipal. En principe, c'était donc M. Twati qui devait lui succéder, et nous avions prévu de l'installer, mais je crois qu'il a des soucis peut-être d'incompatibilité avec sa profession actuelle, et sans doute qu'il ne pourrait pas siéger. Non, ce n'est pas lui. Donc, je vous propose, en accord avec M. Gavarrou, de ne pas procéder à son installation ce soir. Il nous fera donc savoir dans les jours qui viennent s'il est en mesure de siéger au conseil municipal ou pas. Et s'il ne peut siéger, ben dans ces cas-là, ce sera dans les membres sur la liste suivante qui seront appelés à siéger. Donc certains d'entre eux ne pourront pas. Bon, enfin voilà, c'est un peu habituel. Donc nous siégerons donc ce soir à 28. Et donc nous avions proposé de mettre sur table une délibération d'installation. Elle n'est pas obligatoire du tout, celle-ci, mais on aime bien acter officiellement donc l'arrivée d'un membre au conseil, même si on ne peut pas s'y opposer, c'est clair, c'est une délibération pure forme. La 129 donc va être retirée, et donc on n'aura donc pas besoin de redécaler toutes les délibérations dans leur numérotation. La 129 telle qu'elle vous a été envoyée restera la 129. La 136 est modifiée, donc vous en prendrez connaissance. Et si vous êtes d'accord, je vous propose d'accepter la présentation sur table d'une délibération qui est une demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Ça ne peut pas, le calendrier de l'agence ne peut pas attendre notre prochaine réunion en novembre. Y a-t-il des oppositions pour examiner cette délibération? Non, je vous en remercie.
Ça deviendra la 146 alors.
Ça deviendra sans doute la 146, oui. Ouais. Madame Galochet.
Par contre, ce n'est pas la 136 que l'on modifie, c'est la 135.
Du coup, c'est aussi la 135 qu'on modifie, pas la 136. Et voilà, toujours un peu compliqué. Nous avons auparavant donc approuvé le procès-verbal de la dernière séance. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, là, ça fait 1, 2, 5. Voilà. 5 voix contre. Qui l'approuve? Normalement, ça fait 21.
Voilà.
Oui. Ah, vous pouvez, oui, c'est bon, vous pouvez baisser les bras. Y a-t-il des questions, des commentaires concernant les décisions que j'étais amené à prendre entre entre la numéro 35 et la numéro 47 ? Non. Et en ce qui concerne les conventions que j'ai signées, entre le numéro 96 au numéro 133, non plus. Donc je vais vous proposer donc d'aborder l'ordre du jour tel qu'il vous a été communiqué. Avec donc la 129, hein, l'approbation des statuts modifiés de la communauté de communes de la Brie-Longiciane. Et je passe la parole à Mme Labutte.
Merci, monsieur le maire. Lors de sa séance en date du 28 juin 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Brie-Longiciane a voté pour la modification de ses statuts à l'unanimité des voix, notamment par l'ajout de deux compétences facultatives. La première, participation financière à la ligne régulière de Nangy, inscrite dans le réseau du bassin Est Seine-et-Marne et Montois, à compter du 1er janvier 2019, dans la continuité des délibérations du conseil municipal en faveur de la reprise de la ligne Nangibus par la communauté de communes. En effet, dans le cadre des travaux du bureau d'études Transamo, missionné par la communauté de communes de la Brie-Longiciane, une réflexion sur la configuration d'un transport sur le territoire a été menée. L'étude qui en résulte propose une meilleure optimisation des services de transport ainsi qu'une prise en charge globale de la politique transport par la communauté de communes. Toutefois, avant d'envisager un transfert de la prise en charge du Nangibus, les élus communautaires ont souhaité une réflexion sur la rationalisation de celui-ci, car ce service est sous-utilisé en heure creuse à certains arrêts. Cette réflexion a été engagée avec la société Procar et Île-de-France Mobilité. Le projet est donc le suivant. Desserte de la commune par une boucle unique, ne circulant que dans un sens, aux heures de pointe du matin, c'est-à-dire de 5h45 à 9h10, et du soir de 15h39 à 21h04, sous la forme d'une ligne régulière du lundi au vendredi. Une boucle d'une durée environ 25 minutes, permettant les correspondances avec les trains en direction de Paris le matin et en provenance de Paris le soir. Le cadencement, c'est toutes les 30 minutes. Le choix du sens afin de minimiser le coût des aménagements et des mises aux normes des arrêts. Ce nouveau circuit engendrera pour la commune la création de 5 nouveaux arrêts. Une simple matérialisation des arrêts pourrait suffire dans un premier temps afin de tester le parcours et un arrêt sera à matérialiser et à sécuriser avenue Victor Hugo. Il s'agissait donc de du premier ajout des compétences facultatives. Deuxième ajout concerne les facultatives relatives à l'école multisport. Donc, il s'agira d'organisation de stages et animations à l'échelle intercommunale et les interventions en milieu scolaire. Donc, à partir de cette rentrée-là, il est proposé que les éducateurs sportifs du service multisport interviennent dans les écoles primaires du territoire. Ils assisteront les équipes pédagogiques dans la mise en place de cycles d'activités sportives, et ce, à la demande et sous la responsabilité des enseignants, sur le principe de la co-intervention. L'objectif de cette collaboration est d'apporter un appui pédagogique et technique aux enseignants, mais également de compléter et enrichir les séances en proposant des sports peu pratiqués. Afin de procéder à la modification des statuts communautaires, le conseil municipal est sollicité pour avis qu'elle doit rendre dans un délai de 3 mois en application des articles du Code général des collectivités territoriales. Donc vous avez eu les statuts de la communauté de communes qui ont été joints par mail et on vous demande par l'article 1 d'approuver les statuts modifiés, qui l'ont été d'ailleurs à l'unanimité au conseil communautaire, et en article 2 de charger monsieur le maire de notifier la présente délibération à madame la sous-préfète de Seine-et-Marne. Merci.
Madame la préfète. Voilà, donc comme le dit Clotilde, je crois que les conseillers communautaires de Nangy se sont prononcés en faveur de la modification des statuts, hein, qui permet d'avancer quand même sur le dossier Nangibus. Et puis, ce n'est pas totalement anecdotique, hein, donc la deuxième partie de la modification permet pour la première fois à la communauté de communes de prendre pied sur le temps scolaire. Hein, donc on verra les développements futurs, bon, en permettant aux éducateurs sportifs d'intervenir dans les écoles. C'est bien entendu sur la base du souhait des enseignants et souhait ratifié par les conseils d'école. A priori, on ne voit pas grand-chose à redire. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Je la mets donc aux voix qui s'y opposent, qui s'abstient. Elle est donc adoptée à l'unanimité des présents. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons avoir trois projets de délibération qui consistent à donner l'avis de la commune dans le cadre de trois enquêtes publiques. Toutes les trois ont évidemment des conséquences sur l'environnement ou la protection de l'environnement. La première, la 130, concerne le projet de création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de la Croix-en-Brie. La 131 concerne la demande d'autorisation environnementale loi sur l'eau présentée par le syndicat intercommunal, le SIAP, site Saint-Laval, le grand syndicat qui gère les eaux de Paris et de la Petite Couronne, concernant le périmètre d'épandage dans le département de Seine-et-Marne des boues et compostes de boues de l'usine d'épuration Saint-Laval d'Achère. Nous la connaissons bien, celle-ci. Ça me rappelle, ça me ramène 16 ans, à peu près 16 ans en arrière. Et puis la 132 a un avis sur la demande de dérogation au niveau d'émissions associées aux meilleures techniques disponibles pour les dioxydes de soufre des installations de la raffinerie de Grand Puy Panique-Carrois. Donc pour vous présenter tout ça, eh bien Roger s'est mis au travail, comme d'habitude, avec son sérieux que nous lui connaissons.
Merci Monsieur le Maire. Donc la 130 avis sur le projet de création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de la Croix-en-Brie. Une demande d'autorisation unique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement a été présentée par la société Nordex LX2 SAS pour la création d'un parc éolien constitué de 4 aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de la Croix-en-Brie. Conformément à la procédure pour ce type de demande, une enquête publique est organisée du 27 août au 28 septembre 2018 auprès de 22 communes du territoire d'implantation, dont fait partie la commune de Nangy. À ce titre, l'avis de la communauté de communes de Lavé-Nangissais est sollicité. En fait, elle a rendu déjà son verdict la semaine, il y a 10 jours, en conseil communautaire. Afin de démettre un avis qui sera transmis aux autorités compétentes et permettre ainsi à la commune de prendre position sur ce sujet. Sur le fond, un premier avis de l'architecture des bâtiments de France, l'architecte pardon, des bâtiments de France et de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France a été rendu le 27 janvier 2017. Il rappelle en premier lieu que cette demande concerne un territoire dont la sensibilité est telle que le précédent projet éolien, création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes de Châteaubourg et Montvilliers, n'a pas abouti en raison des avis consécutifs défavorables des personnes publiques associées d'IRM Île-de-France, DDEA, SDAP et CNDPS. Antérieurement, le projet éolien sur le territoire de Pessy n'avait pas abouti non plus. Le demandeur souligne au préalable que cette demande repose sur la conformité du schéma régional de l'éolien d'Île-de-France, alors qu'il a été annulé par le tribunal administratif depuis le 13 novembre 2014. De plus, le guide méthodologique relatif à l'implantation des éoliennes en Seine-et-Marne de la préfecture paru en 2017 a démontré que l'entité paysagère parvis de rampillons et terrasses hautes de Nangy révèle une forte vulnérabilité à l'installation d'éoliennes de grande hauteur et qu'elle est très éloignée des zones préférentielles d'implantation de l'éolien définies dans son volet paysager. En second lieu, l'architecte souligne que ce projet met en cause un territoire très sensible des points de vue du patrimoine théorique et du patrimoine paysager en raison des sites historiques et forestiers inscrits et classés. Il a analysé l'impact visuel que représentent les éoliennes sur ces différents sites, montrant clairement une incompatibilité entre les monuments historiques et une installation à caractère industriel. Pour ces raisons, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Puis un deuxième avis de la mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France a été émis le 6 mars 2018. Il recommande d'approfondir, au vu du meilleur état des connaissances scientifiques disponibles, l'étude des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation concernant les chauves-souris, de préciser les cibles visées par le suivi et de présenter les mesures prévues en cas de bilan négatif du suivi de la mortalité des espèces, d'approfondir la justification des impacts paysagers sur les sites à enjeux patrimoniaux, avec l'appui de photomontage supplémentaire, de justifier la distance du projet du site inscrit de la butte de Rampillon, d'approfondir l'analyse de l'impact du projet sur le site du patrimoine mondial de Provins et d'en tirer les conséquences pour le projet selon la séquence à éviter, réduire ou compenser. D'actualiser l'étude de danger avant l'enquête publique pour prendre en compte, si le retour d'expérience est disponible, la chute d'éolienne survenue en Vendée en janvier 2018. Enfin, la taille limitée de ce projet éolien interroge sur son efficacité en matière de production énergétique et la pertinence de son installation en l'absence de schéma régional de l'éolien d'Île-de-France. En considération de ces avis, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis défavorable. Merci.
Donc la municipalité, qui a préparé l'examen de ce dossier, propose d'émettre un avis défavorable, comme l'a fait d'ailleurs le conseil communautaire à la majorité la semaine dernière. La parole à qui le souhaite, M. Gabarou.
Bonsoir, M. le maire. La seule petite question, c'est sur la forme, dans le sens où, dès le départ, vous nous dites un avis défavorable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion possible, on ne peut pas dire un avis favorable. Ça aurait été mieux.
Oui, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis défavorable.
Oui, parce que mettons la 130-131, c'est défavorable tout de suite, alors que dans la 132, c'est avis favorable ou défavorable. Donc on a un choix. Là, on a l'air de croire qu'on nous dit qu'il faut voter défavorable. Donc c'est simplement sur la forme.
Oui, non, mais c'est
parce que le débat a déjà eu lieu sur l'éolien.
Il a eu lieu au conseil communautaire, il a eu lieu au sein de la majorité. Bon, voilà. On pourrait effectivement changer d'avis aujourd'hui si des éléments nouveaux étaient apparus. Mais vous avez raison, on remarquera qu'il est proposé.
C'est simplement sur la forme.
Il n'y a pas de souci. Et sur le fond ?
Non, d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Nous avons voté pour vous, comme vous.
Madame Chute.
On est pour un avis défavorable et contre un avis favorable.
D'accord. Est-ce qu'on engage le débat ce soir ? Non, je pense que la façon dont Roger a présenté les choses complète, résume assez bien notre prise de position. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un avis défavorable sur le développement éolien en général. Voilà, on n'a pas une opposition à toute forme de projet. Encore que, bon, souvent, les éoliennes, on préfère ne pas les avoir au fond de son jardin. C'est toujours un peu, c'est comme les autoroutes. On aime bien prendre les autoroutes, mais il ne faut pas qu'elles passent trop près de chez soi. C'est un des problèmes de l'éolien, effectivement, d'avoir un impact paysager quand même extrêmement important. Je salue l'arrivée de Jacob Dallou, qui rentre du travail. On verra qu'il y a d'autres projets de développement énergétique sur notre territoire ou sur le territoire de la communauté de communes. Un sur le territoire de Nangy concerne effectivement une unité de méthanisation avec les déchets de la production agricole. Et on est plutôt dans une démarche très favorable à ce type d'installation. Et je pense qu'on entendra parler d'ici quelques temps, mais visiblement la société Total travaille à l'installation d'un champ de panneaux solaires dans le périmètre de la raffinerie, donc sur des terrains où on ne peut rien construire. On ne peut pas y avoir d'activité agricole, il ne peut pas y avoir de construction, et avec un impact relativement limité au sol, puisqu'on nous parle d'unités qui ne dépasseraient pas 1,50 m. Bon, à voir. Je pense qu'il est aussi de notre devoir de soutenir des projets qui vont dans le sens des énergies alternatives, néanmoins pas au prix, je crois, de défigurer l'environnement de sites patrimoniaux d'une telle qualité que ceux que nous avons autour de Nangis. Je mets au voie cette délibération, donc qui s'y oppose, qui s'abstient, et donc adopté à l'unanimité des présents. Ah, monsieur Valère, excusez-moi.
J'ai deux.
Oui, je vous en prie, je vous en prie.
La mienne.
Oui.
Et celle de monsieur Huet.
Oui.
Donc, en ce qui concerne monsieur Huet, ardent défenseur de,
oui,
des énergies alternatives, je n'ai pas eu de consigne de vote sur ce point très précis. Donc, je ne me permettrai pas de voter ni pour ni contre, mais sur ce point-là, de m'abstenir en son nom.
Très bien. Une abstention de précaution, c'est ça?
Il est loin d'ici, donc je n'ai pas pu te joindre, désolé, mais l'Amérique du Sud, c'est un peu loin.
D'accord. Très bien. Voilà. Alors, Jean-Pierre, je voulais le dire tout à l'heure, la plupart des conseillers municipaux qui sont absents ce soir le sont pour des raisons de santé ou de soins. Voilà. Très peu sont en vacances. Hein, voilà, deux, exactement. Mais je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui sont confrontés à des soucis de santé ou qui vont avoir affaire aux chirurgiens bientôt. Ça, c'est pas toujours très drôle. Alors, la 131, alors, pour laquelle effectivement nous proposons un avis défavorable, mais évidemment, ce n'est qu'une proposition. Monsieur Cyprès, toujours à vous.
Merci. Avis sur la demande d'autorisation environnementale loi sur l'eau présentée par le SIAP, site Seine Aval, concernant le périmètre d'épandage dans le département de Seine-et-Marne, d'égouts et compost, debout de l'usine d'épuration Seine Aval d'Achel. Prêté préfectoral numéro DSEBPEE numéro 2018. 6 du 8 juin 2018, une enquête publique relative à l'affaire citée en objet est prescrite par la préfecture de Seine-et-Marne dans le cadre de la demande effectuée par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, SIAP. Elle se déroule du 24 septembre 2018 à 9h au 24 octobre 2018 à 17h. Au point de vue global, cette demande concerne 106 communes de Seine-et-Marne, dont Nangis, 57 exploitations agricoles, 3662,99 hectares de surface épandable, un tonnage maximum à épandre en Seine-et-Marne de 8300 tonnes de matière sèche, représentant environ 8% de la production de boue de l'usine. Il est à noter également que la zone de collecte des eaux usées traitées à l'usine d'épuration Seine-et-Marne à Val d'Achère 78 représente 63% des eaux usées de l'agglomération parisienne provenant des départements suivants: Paris, Val d'Oise, Seine-Saint-Denis, Essonne, Haute-Seine, Val-de-Marne et Yvelines. Les boues d'origine extra-départementale épandues en Seine-et-Marne constituent, selon le dossier, 21% du tonnage global d'épandage des boues. Toutefois, les boues ayant pour origine les stations d'épuration du SIAP constitue 85% des boues d'origine extra-départementale. D'un point de vue local, il est important de remarquer que cette démarche peut avoir un impact significatif pour la sucrerie Le Safre de Nangis. En effet, suite à une réunion en date du 26 juin 2018 entre l'élu et le technicien du secteur de l'eau et de l'assainissement de Nangis et les représentants de cette entreprise, ces derniers ont confirmé les éléments suivants. Les betteraves sont des accumulateurs de métaux lourds, comme le confirme le dossier d'enquête publique, voire étude d'impact, page 175, article 4174, contamination des végétaux par les éléments traces métalliques. La plupart des végétaux, retiennent les ETM dans ses racines, et ce, quels que soient les éléments. La sucrerie de Nangy ne dispose pas de moyens réglementaires pouvant lui permettre d'interdire à des planteurs de recevoir et d'enfuir des boues contenant des métaux lourds sur les parcelles destinées à la production de betteraves sucrières. La sucrerie Le Saf fait d'importants efforts environnementaux et sociaux. En effet, elle est passée d'environ 400 000 mètres cubes d'eau pompée dans la nappe de Champigny il y a 20 ans, environ 20 000 mètres cubes aujourd'hui. Ceci est dû du fait que l'eau contenue dans la pulpe des betteraves est utilisée dans le process de l'entreprise. La sucrerie répond à ce jour au plus haut niveau des exigences environnementales européennes et françaises quant aux impacts de son activité sur l'environnement. Elle ne fait pas appel à des travailleurs détachés pour les rotations de poids lourds pendant la période de récolte des betteraves et interdit toute rotation de poids lourds les nuits et les jours fériés. Enfin, afin de protéger l'activité locale de la sucrerie Le Saf de Nangy et les emplois correspondants, il est proposé que le conseil municipal de Nangy émet un avis défavorable à cette enquête publique et maintient son interdiction de tout épandage de boue et de compost de boue en provenance de l'usine Saint-Naval d'Achères sur l'ensemble de son territoire communal. Merci.
Merci Monsieur Cypré. Oui, je rappelle qu'en 2002, nous avions déjà été amenés à refuser le périmètre d'épandage des boues de la station d'épuration de Saint-Naval à Cher, en raison des mêmes motifs, c'est-à-dire qu'il y a en tout et partout deux grandes usines d'épuration qui épurent l'eau provenant de Paris et de la Petite Couronne. Nous avons Acher dans les Yvelines et Valenton dans le Val-de-Marne. Et je dirais que l'eau qui doit être épurée a des caractéristiques particulières puisqu'il s'agit de l'eau provenant de centres urbains particulièrement denses. Alors, si on regarde effectivement la norme, la plupart de ce que contient des molécules contenues dans les bouts de la station du PORHR, sans dessous des normes, bien entendu, ne pourraient pas être répandues. Néanmoins, elles sont quand même nettement elles ont des normes, elles ont des mesures beaucoup plus élevées que celles que nous épandons, nous, en provenance de notre station d'épuration, qui n'épure pas tout à fait la même nature d'eau. Donc en 2002, nous avions pris un arrêté interdisant l'épandage. Cet arrêté vaut toujours. Là, il y a une nouvelle tentative. Alors, il va tomber, puisqu'il était lié à un périmètre, donc il n'y a pas qu'on le reprenne à nouveau. C'est dans une lettre que je vous ai communiquée, la société Le Safre a complété son argumentation en nous indiquant quand même qu'actuellement la surface agricole utile qui peut être utilisée pour l'épandage des boues du SIAP sur les exploitations agricoles qui livrent des betteraves à la sucrerie est de 65 hectares. Aujourd'hui. La nouvelle demande intéresse une surface agricole utile pour les planteurs de la sucrerie de 1341 hectares. Donc on passerait de 65 à 1341 hectares, avec le risque d'un conflit entre la sucrerie qui du coup sera amenée à refuser. Elle ne peut pas interdire aux planteurs de recevoir les boues de la station d'Achères, mais elle peut refuser de prendre les betteraves. Mais très honnêtement, ce serait mettre la sucrerie dans une difficulté importante que de laisser faire de telles choses. Alors, vous me direz, toutes les parcelles agricoles qui plantées de betteraves ne sont pas à Nangy, donc la sucrerie fait la même démarche auprès de toutes les communes où il y a des planteurs de la sucrerie. Donc il y a tout un détail effectivement sur bon c'est très 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 bien je dirais argumenté. J'ai noté quand même quelques arguments qui n'étaient pas dans l'argumentation de la sucrerie Le Saf, mais sont utiles à savoir. Vous savez qu'il y a, il y a un débat important au niveau européen sur les nicotinoïdes, hein, qui sont effectivement ces... pas des pesticides, c'est des perturbateurs endocriniens qui sont beaucoup utilisés effectivement dans les insecticides. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 300 produits qui sont autorisés à la vente, notamment pour se débarrasser des puces, des poux, et ce sont des choses qui sont quand même beaucoup utilisées en milieu urbain et qu'on va très très vite retrouver donc dans les eaux. Il y a énormément de produits vétérinaires, notamment pour les animaux de compagnie, qui sont encore autorisés. Il y a un débat, vous le savez, en France et en Europe, sur le glyphosate, par exemple. Hein. J'ai entendu ici à l'Assemblée générale de la FDSEA, énormément de lessives, lorsqu'elles sont utilisées, créent une molécule qu'on appelle l'AMPA. Et cette molécule est en fait quasi voisine de celle du glyphosate, donc on la retrouve en masse dans les stations d'épuration, probablement aussi dans la nôtre. Il va falloir quand même qu'on se penche aussi un peu sur cette question, savoir si on est en capacité de la piéger. Et puis une petite réflexion en disant quand même finalement on est en train de polluer les terres ici, alors nous on a mis quand même beaucoup beaucoup d'argent hein, pour dépolluer l'eau qui a été polluée quelque part par une forme d'activité agricole dont on avait mal mesuré les impacts il y a 25-30 ans. C'est, aujourd'hui, on est en train de filtrer les molécules qui ont été épandues dans les terres agricoles il y a plusieurs décennies. Nous sommes en train, nous conduisons avec tous les acteurs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient jardiniers ou même les collectivités locales, des actions pour réduire notre impact sur l'environnement et pour protéger la nappe phréatique. Et finalement, on va laisser une grande station d'épuration nous ramener des boues dont on ne peut pas dire que ça va améliorer la qualité du sous-sol, bien au contraire. Voilà toute une série d'arguments qui font que je vous propose effectivement d'émettre un avis défavorable, et d'interdire, de maintenir notre interdiction de procéder à tout épandage de boues. Il n'y en a pas aujourd'hui. Hein. Il a fallu en 2003, il a fallu s'y opposer physiquement, et on a demandé le renfort de la gendarmerie. Donc les camions qui amenaient les boues sont repartis, et depuis, on n'a plus eu d'autres problèmes. Aucun agriculteur de Longis n'en accepte. Monsieur Gébard.
Oui, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs sur la région autour de Longis qui commence à faire de l'agriculture biologique. Or, s'ils mettent une fois des betteraves et ou qu'il y ait des boues, ils ne pourront plus avoir le label bio. Donc, c'est quand même assez ennuyeux. Et est-ce que la communauté de communes ne doit pas aussi se positionner dans ce cas-là parce qu'elle est impactée
Elle est impactée, est-ce qu'elle doit se positionner? Je ne sais pas, on va poser la question.
C'est une question peut-être à poser. Ça peut renforcer...
Je partage ce point de vue. D'autres contributions?
Oui, je voudrais simplement dire, j'ai reçu un fascicule du SIAP. Oui. Les boues, je l'ai parcouru, je l'ai lu. En aucun moment, il y a une analyse, quelle qu'elle soit, des boues. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On connaît les volumes, mais en aucune façon,
Elles sont faites, les analyses. Hein. On le sait, puisque c'est extrêmement contrôlé. Nous-mêmes, nous valorisons les boues de la station d'épuration par la filière agricole. Hein. Donc, on les sèche, on les réduit en granulats. Mais avant, elles font l'objet d'analyses régulières. Et se produisait une pollution, ça peut arriver. Hein. Donc, dans ces cas-là, les boues ne sont pas utilisées pour la valorisation agricole et partent pour le moment en centre d'enfouissement technique. Alors, allez, quand même, pour la petite histoire, je ne vais pas résister à vous la raconter. La société qui se charge de la valorisation des bois agricoles, pour le SIARP, c'est SED Environnement. La société qui se charge de la valorisation des boues de la station d'épuration de Nangy, c'est SED Environnement. Évidemment, en 2002, SED Environnement n'avait pas apprécié notre interdiction, mais quand on a travaillé sur le process, sur le projet de la station d'épuration de Nangy, c'était 5 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, et a priori, ils avaient oublié. Et SED Environnement était venu nous voir en disant, écoutez, nous savons que vous voulez mettre en place un process de valorisation agricole de vos boues, nous pensons que c'est une erreur. Voilà, parce que voilà, la qualité des boues peut être différente d'une semaine à l'autre. Il peut y avoir dans les boues, effectivement, des molécules qu'on ne souhaite pas retrouver dans l'environnement. Et nous vous conseillons de les incinérer. On était assez étonné quand même de ce revirement de position, parce que finalement, pourquoi ne pas incinérer les boues de la station d'épuration d'Achères. Et renseignements pris, ils étaient en train de porter un projet d'incinérateur de l'autre côté de Melun, et donc ils avaient besoin de trouver des clients. Le problème des boues, l'incinération des boues, c'est que bah, ça brûle très mal. Et donc il faut injecter énormément de carburant. Donc c'est pas un process facile à mettre en œuvre. Mais c'est peut-être mieux quand même que d'enfouir dans des centres d'enfouissement technique. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un souci. Hein. Alors d'une part c'est un souci parce que pour la Seine-et-Marne, qui continue d'être un petit peu la poubelle de l'Île-de-France. En gros, on a des grands territoires et donc on peut plus facilement les polluer que les territoires qui sont urbanisés. Mais je pense que de ce point de vue-là, il y aurait peut-être nécessité de pousser un peu la recherche pour trouver des process qui soient, en tous les cas, plus intéressants que ceux qu'on utilise actuellement. Je mets aux voix. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité des présents. Bon, je pense que M. Huet l'a probablement voté. Vous l'avez au téléphone? Non, parce qu'autrement, il peut non, s'abstenir au cas où.
Sur ce point-là, il ne s'était pas fait valoir.
D'accord. Et puis, nous avons donc un dernier avis. Alors, oui, vous avez raison, M. Gabarou. Celui-ci, on l'a mis entre parenthèses en se disant on aura le débat au conseil municipal après avoir posé quelques questions à la raffinerie. Donc, projet, c'est encore en train.
Merci. Avis sur la demande de dérogation au niveau d'émission associée aux meilleures techniques disponibles pour les dioxydes de soufre des installations de la raffinerie de Grandpuy, Bailly-Carrois. Une demande de dérogation au niveau d'émission associée aux meilleures techniques disponibles pour les dioxydes de soufre, SO2, a été sollicitée par la société Total Raffinage France pour ces installations de raffinage situées sur les communes de Grandpuy-Bailly-Carrois et de Beaupierre-Ozoir-le-Repos. La raffinerie totale de Grandpuy doit respecter les conclusions du bref, lire entre parenthèses, moi je parle pas très bien anglais, pour le raffinage. Le respect des meilleures techniques disponibles, MTD, et de ce bref est imposé par la réglementation européenne. Les niveaux d'émissions associés à l'EOL des MTD décrites dans le bref doivent être respectées au sein de la raffinerie. Cette décision a été rendue par la commission établissant les conclusions des MTD pour le secteur du raffinage dans la séance du 9 octobre 2014, délivrée au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles. Cette décision concerne notamment le MTD 58, norme de NEA pour les dioxydes de soufre. Pour se conformer à cette norme, la raffinerie doit engager des travaux d'investissement pour traiter les incondensats de la distillation sous vide. Ils ne seront réalisés que durant le prochain grand arrêt de la raffinerie prévu en 2021. En fait, j'ai téléphoné à la raffinerie, le prochain grand arrêt il est prévu en octobre 2020. C'est dans ce cadre qu'une demande de dérogation temporaire a été sollicitée. Enfin, cette demande de dérogation est soumise à une consultation du public, des territoires concernés par le périmètre d'activité de la raffinerie Total, le conseil municipal de Nongy est sollicité pour rendre son avis à la demande de dérogation de la société Total Raffinage France. Merci.
Alors, il s'agit de l'application d'une directive européenne datant de 2010, nous sommes en 2018, qui a été précisée par un certain nombre de textes en 2014. Total ne pouvait pas ignorer ce qui se discutait à Bruxelles à cette époque-là. Je pense que Total y participe en général assez activement. Ils ont un lobbying très très fort là-bas. Or, le dernier arrêt de la raffinerie a eu lieu en 2014. Et on était sur des intervalles de 5 ans, 2014. Hein. Donc 2009-2014. Aujourd'hui, la raffinerie pense qu'ils peuvent retarder d'un an l'intervalle et passer à 6 ans. Alors, on peut quand même s'interroger d'une part de la raison pour laquelle en 2014 ils n'ont pas profité de l'arrêt alors qu'ils avaient toutes les données techniques pour le faire et attendre plusieurs années à dégager finalement des émissions de soufre qui sont quand même pas extraordinaires pour la santé du voisinage. Et je dois dire que là, le fait que... Alors, oralement, on nous dit octobre 2020, mais dans le document que Total nous produit, ils écrivent 2021. Hein, donc oui, c'est... Oui, oui, non, mais je peux te dire que dans ça, c'est oui, t'es un copain, etc. Oui, ce sera 2020. Mais dans le document qui est transmis, l'arrêt est prévu en 2021. Raison pour laquelle on sait bien aussi qu'il s'agit de grosses industries, qu'on peut pas faire les investissements sur une raffinerie qui fonctionne. J'aurais tendance moi à vous proposer de rendre un avis réservé à la demande de dérogation de la société Total Raffinage France au niveau des missions d'associer aux meilleures techniques disponibles pour les dioxydes de soufre. Donc le conseil municipal rend un avis réservé. Il demande à CETAL de procéder à l'arrêt de la raffinerie le plus tôt possible afin de procéder donc aux investissements nécessaires. Voilà ce que je vous proposerai comme formulation qui tient compte à la fois des contraintes de l'industriel, mais en même temps qui ne peut se satisfaire de continuer jusqu'en 2021 à produire ainsi. Voilà. Autrement, si vous voulez qu'on aille jusqu'à l'avis défavorable, bon, ça ne vous arrange pas non plus. Voilà. Voilà. Oui.
Même si nous rendons un avis défavorable, n'importe comment, on ne peut, il n'y aura rien de fait. Parce que matériellement, ça demande justement un arrêt pour pouvoir changer le matériel. Oui, donc,
au moins, on ne sait pas.
On peut se réserver, mais un avis défavorable, je pense que c'est.
Pour ça que je vous propose un avis réservé en demandant à cette Total d'avancer son arrêt. Alors, si c'est 2020 par rapport à 2021, on a gagné un an, et si on pouvait gagner 6 mois, ce serait pas mal non plus. Enfin, voilà, mais à partir du moment. Alors après, on peut s'interroger toujours sur les normes, mais vous savez, à Bruxelles, lorsqu'on abaisse les normes, en général, c'est parce qu'on sait qu'il y a une solution industrielle qui permet de la respecter. Autrement, on ne les bouge pas, puisque quand même le travail des lobbies industriels à Bruxelles fait qu'en règle générale, on n'est pas toujours sur des positions qui vont à l'encontre des grands intérêts financiers. Donc les solutions techniques existent. La preuve, c'est que Total propose de les mettre en place, mais... Voilà. Madame Charest,
oui,
avec le micro, voilà, si vous voulez bien me passer.
Comme vous veniez de dire, monsieur le maire, effectivement, Total ne pouvait pas ignorer quand même cette directive européenne qui, depuis des années, est en discussion, a été approuvée et autres, donc on sait très bien pourquoi des lobbyistes à Bruxelles. Voilà. Après, émettre un avis réservé me semble voilà, de bon compromis, on va dire, pour permettre de montrer quand même que nous ne sommes pas dupes sur cette situation, que cette situation, Total la connaît depuis de longues années et que cette firme n'a rien fait pour mettre en place les mesures de compensation nécessaires. Et toutefois, quel pouvoir de... Voilà, si on mettait un avis défavorable, je ne pense pas malheureusement que ça pourrait changer grand-chose. Donc au moins, par cette proposition, nous marquons notre désaccord et nous sommes, je pense, aussi conscients de nous montrons aussi que nous sommes conscients de l'enjeu écologique qu'il y a derrière. Voilà.
Est-ce que cette position convient ? Donc je vous propose de modifier l'article 1 de cette façon. Donc rend un avis réservé, et donc là, jusqu'à dioxyde de soufre, point, et on ajoute, il demande à la Cité Totale de procéder à l'arrêt de la raffinerie le plus tôt possible afin de procéder aux investissements nécessaires. Nécessaires à la mise en œuvre. Au respect. Je mets aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc la délibération est adoptée à l'unanimité des présents. Alors, nous avons ensuite le papier. Les délibérations SDESME. En général, on en a au moins une. Là, on va en avoir deux. Alors. La première concerne l'adhésion à un nouveau groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fournitures, de services associés par le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. La ville de Nangis est actuellement membre de plusieurs groupements de commandes d'achat d'énergie coordonnés par le SDESME. Afin de satisfaire un élargissement du périmètre des membres et répondre à de futurs besoins, le SDESME a procédé à une modification de la convention constitutive. Le présent acte constitutif a pour objet de constituer un groupement de commandes sur le fondement des dispositions de l'article 8.7-1 du Code des marchés publics, abrogé par l'ordonnance 2015-899, et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. Le groupement a pour objet la passation des marchés de fourniture, d'acheminement et des services associés pour les besoins propres des membres. Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins énergétiques récurrents des membres dans les domaines suivants. Fourniture, acheminement d'énergie, électricité, gaz. Là, de ce point de vue-là, on est déjà, nous, adhérents à ces deux groupements. Propane, mais aussi le bois, voire d'autres sources d'énergie. Le fioul, par exemple. Et la fourniture de services associés, efficacité énergétique, maîtrise de l'énergie. La nouvelle convention offre désormais la possibilité de passer des marchés de fourniture sur toutes les énergies, mais aussi de services associés, notamment sur les thèmes de l'efficacité énergétique et de la maîtrise de l'énergie. Cette souplesse nous permettra de répondre plus facilement à de futurs besoins ou obligations, et ce, au travers d'une même convention. Ainsi, la ville de Nangis pourra bénéficier au choix d'un ou plusieurs, ou de l'ensemble des futurs marchés passés au titre de la nouvelle convention. Le mode de calcul des frais de fonctionnement a également été revu afin d'offrir plus de simplicité et plus de justesse entre les membres dès lors qu'ils participent. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à ce groupement de commandes qui permettra de bénéficier de prestations diverses, si nous le souhaitons, au moment donc, où les marchés sont passés. Donc, à ce stade-là de la délibération, nous n'avons pas besoin de ces services, ni de ces fournitures, ni de ces services, puisque en gaz, en électricité, ça ne modifie pas les conventions. C'est la possibilité de participer après coup, à partir du moment où on pourrait considérer qu'un marché est particulièrement intéressant. Je pense notamment sur les problématiques de service, sur la réflexion sur l'efficacité énergétique de certains bâtiments, la maîtrise de l'énergie. Souvent, on est obligé de faire appel à des bureaux d'études. S'il y a effectivement des coûts qui ont été négociés par le SDESME qui sont intéressants, ça nous permettra d'en bénéficier. C'est donc une adhésion de principe, mais qu'on n'activera pas pour le moment. En tous les cas, pas sans être revenu vers vous. Ça permet donc au SDESME de négocier avec des entreprises un volume potentiel effectivement plus important. Donc ils ont une fourchette en disant, bon, voilà, ce sera au minimum et au maximum si toutes les collectivités qui participent au groupement qui ont été sollicitées adhèrent. Voilà la petite nouveauté du SDESM de ce soir. Des questions ? D'observations ? Je vous propose de la mettre aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, une délibération de principe, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'une commune fait une demande d'adhésion au SDESM, l'ensemble des communes membres doit délibérer. Bon, si elle le fait pas, son avis est réputé favorable, enfin on va le faire, c'est encore mieux. Donc nous avons à donner un avis sur l'adhésion au SDESM des communes de Bagneux, sur le Rhin, pas Bagneux, hein, Bagneux, EAUX, Lézigny, Croissy-Beaubourg et Villenoix. Donc je propose de donner un avis favorable. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vais peut-être un peu vite?
Non.
Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Enfin, nous avons... Alors donc c'est la délibération qui est modifiée avec celle qui a été mise sur table. Il faut dire la 135 au lieu de la 136, on est bien sur la 135. Le 28 avril 2014, le conseil municipal a procédé à la désignation des membres à divers comités consultatifs, notamment le comité consultatif cadre de vie, transport et circulation. La délibération du conseil municipal numéro 2014-avril-66. Il est proposé de modifier la composition de ce comité consultatif pour les motifs suivants. Donc, M. Mehdi Ben Salem était membre de ce comité consultatif en qualité de personne qualifiée, étant désormais élu municipal de la ville de Nangis. M. Ben Salem doit siéger en tant que représentant du conseil municipal. Suite à la démission de M. Pierre Guillou, il convient de désigner un nouveau membre suppléant parmi les élus municipaux. Et également désigner deux membres parmi les personnes qualifiées, messieurs Alain Michaud et Michel Leclerc, ayant démissionné, il convient donc de les remplacer. La désignation des représentants du conseil municipal au sein de ce comité consultatif se fera en séance du conseil municipal. Oui, ça va se faire aujourd'hui. Pour le remplacement des personnes qualifiées, il est proposé de désigner Mesdames Marie-Hélène Tuillier, ici présente d'ailleurs dans le public, qui est une ancienne cadre de collectivité, c'est une directrice générale des services, et de Nangis d'ailleurs, depuis quelques années, Priscilla Fétou, qui a été, elle, conseillère locale de la jeunesse. Hein. Oui, et on a, dans la libération, on a rajouté... pas Tuillier, mais Tuillier. Par cette délibération, il convient donc de désigner un membre suppléant au sein du conseil municipal et de procéder au remplacement des membres en qualité de personnes qualifiées. Donc, nous aurions donc en titulaire Claude Godard, Charles Murat, André Palancal, Pascal V, Marie-Nicole Galli, Jean-Claude Gavarou, en suppléant Mehdi Ben Salem, Sandrine Nagel, Virginie Salitra, Roger Cypré, Sylvie Galleger, Serge Saussier. Et en personnes qualifiées, Daniel Rollet, Marie-Hélène Tuillier, Priscilla Fétou, Sylvain Moreau, pour les qualifications qui sont indiquées ici. Voilà. Y a-t-il des oppositions ? Donc je mets aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer à trois délibérations concernant les ressources humaines. C'est donc M. Vélère qui va nous les présenter.
Merci M. le maire. Concernant la première délibération, elle a pour objet l'instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ce qu'on appelle par un superbe acronyme RIFSEP. Une mise en conformité réglementaire pour les cadres d'emploi de la filière culturelle de catégorie A et de la catégorie B. Ce n'est pas la première fois que nous présentons une délibération sur ce RIFSEP.
Donc je vais vous donner lecture effectivement de la note explicative qui recouvre ce qu'on a déjà vu par le passé dans l'autre délibération. Par délibération du 23 janvier 2017 et du 6 novembre 2017, le Conseil municipal a instauré le nouveau régime indemnitaire prévu par le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement dit le RIFSEP, pour les agents relevant des cadres d'emploi suivants, attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, animateurs, adjoints d'animation, éducateurs des APS, opérateurs des APS, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux, agents spécialisés des écoles maternelles, autrement dit les ATSEM, les adjoints techniques, les agents de maîtrise et les adjoints du patrimoine. Ce RIFSEP se compose de deux parties. La première, c'est l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, l'IFSE, qui tient compte de l'emploi occupé, de l'expérience professionnelle, à différencier bien sûr de l'ancienneté qui se matérialise, elle, par les avancements d'échelons et de grades. La deuxième partie qui le compose, c'est le complément indemnitaire annuel, avec un superbe acronyme CIA, tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, et ce point-là est facultatif. Ce dispositif a vocation à devenir le nouvel outil indemnitaire de référence applicable à tous les fonctionnaires. À ce titre, il s'inscrit dans la démarche de simplification du paysage indemnitaire initiée ces dernières années par le ministère de la fonction publique afin de réduire sensiblement le nombre de régimes indemnitaires actuellement mis en œuvre dans la fonction publique de l'État. Le RIFSEP, transposable à la fonction publique territoriale en vertu du principe de parité, l'article 88 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, en application de l'article 1er du décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991, prévoit que, je cite, « Le régime indemnitaire fixé par l'Assemblée délibérante au bénéfice des fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. Un tableau établit les équivalences avec la fonction publique territoriale. » Fin de citation. Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci sont libres d'instaurer ou non les nouvelles dispositions indemnitaires, les modalités et les modulations. Le RIFSEP se substitue donc à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. Toutefois, la commune de Nangy, comptant dans ses effectifs des agents détenant des grades non encore ou pas concernés par cette réforme, devra conserver en l'état les régimes indemnitaires de ses agents dans l'attente de la parution des textes de référence. Selon le système d'équivalence fonction publique d'État, fonction publique territoriale, suite à la parution de l'arrêté ministériel du 14 mai 2018, paru au journal officiel du 26 mai 2018, les cadres d'emploi territoriaux suivants peuvent désormais bénéficier du RIFSEP. Il s'agit des conservateurs de bibliothèques limités aux communes de plus de 20 000 habitants ou aux communes disposant de bibliothèques classées, les attachés de conservation du patrimoine, les bibliothécaires, et ainsi que les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Afin que ces cadres d'emploi puissent bénéficier également du RIFSEP, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer en ce sens. Les cadres d'emploi dont les textes de référence ne sont pas encore parus sont les suivants. On attendra bien évidemment pour le faire qu'ils paraissent. Il s'agit des ingénieurs, des techniciens, des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, des éducateurs de jeunes enfants et des conseillers des APS. Une délibération, donc, comme je viens de le dire, complétant le dispositif, sera alors soumise à l'Assemblée délibérante après avis du comité technique lorsque ces textes seront parus. Les cadres d'emploi de la filière de la police municipale ne sont pas concernés par le RIFSEP. Le principe de parité prévu par le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991 ne s'appliquant pas à cette filière. Enfin, compte tenu de la situation budgétaire communale et des acquis individuels, le régime indemnitaire antérieur sera maintenu à titre individuel pour chaque agent, conformément au décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014. L'intégralité de ce montant antérieur sera maintenue au titre de l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, l'IFSE. Cette garantie du maintien individuel sous-entend une hausse du régime indemnitaire pour les agents dont les collectivités mettent en place le complément indemnitaire actuel, le CIA. Ainsi, le choix managérial a été fait de valoriser le présentéisme des agents sans impacter la masse budgétaire, et ce, en minorant l'IFSE en cas de congé de maladie ordinaire sans période d'hospitalisation. Il est utile de préciser que les cas de suspension de l'IFSE sont prévus compte tenu du principe de parité et que, de fait, ils alimentent également budgétairement le CIA. C'est la suite de ce qu'on a pris précédemment. Voilà.
Avec un avis des représentants du personnel au comité technique qui reste défavorable, hein, donc je tiens en informer le conseil municipal, c'est toujours un maintien, puisque c'est leur position ne varie pas et ils sont contre le fait que nous soyons amenés à moduler l'IFSE en cas de congé de maladie ordinaire sans période d'hospitalisation, puisque accident de travail, congé de maladie, tout ça ne fait pas partie des motifs de minoration de l'IFSE. Et puis, c'est leur position est renforcée, effectivement, avec la mise en place depuis le 1er janvier 2018 du jour de carence. Donc, j'ai déjà dit à la population, au personnel, tout le mal que je pensais de la mise en place du jour de carence, dont d'ailleurs l'expérimentation avait donné de très mauvais résultats. C'est-à-dire effectivement une baisse des absences de très courte durée, mais une explosion des absences beaucoup plus longues, liées au fait que, d'une part, des agents qui ne s'absentent pas alors qu'ils devraient le faire parce qu'ils sont malades, risquent de contracter une maladie dans des conditions beaucoup plus graves. Et puis, du coup, lorsqu'un agent a déjà perdu une journée de carence, il va pas tenter de revenir avant d'être sûr d'être parfaitement rétabli, parce qu'il pourrait rechuter et avoir un deuxième jour de carence qui lui serait retenu. Bon, c'est comme ça, c'est la loi, nous l'appliquons. À la différence de la première expérience où le montant de ce qui était retenu aux agents devait alimenter un fonds de solidarité qui n'a jamais été mis en place, nous n'avons strictement aucune consigne en ce qui concerne l'utilisation de la rémunération qui n'est pas versée pour ce genre de carence. Je vous informe donc que je me suis engagé devant les élus du personnel à ce que cette somme vienne alimenter le CIA, donc sera reversée aux agents dont le présentéisme est satisfaisant. Je rappelle également que nous avions prévu une clause de revoyure à la fin de la première année de la mise en place, et nous avons commencé à le mettre en place qu'à partir de cette année, puisque l'année dernière, il y avait trop de catégories de fonctionnaires dont les décrets d'application n'étaient pas parus. Et donc, nous allons pouvoir vérifier quel est l'impact des deux dispositifs, celui que nous avons mis en place, et l'ajout du jour de carence, voir si, pour dans certains cas, la main n'est pas trop lourde. Donc, si tel était le cas, on reviendrait et peut-être on redélibérerait, mais encore faut-il le vérifier. Donc, le travail sera fait au bout d'un an et vous en aurez également les conclusions. Voilà, mais bon, nous maintenons effectivement le RIFSEP tel que nous l'avons mis en place l'année dernière. Des commentaires ? Je procède au vote. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Il est adopté à l'unanimité. Création de poste, monsieur Veller.
Oui, création de poste va être beaucoup plus rapide, puisque le projet de délibération concerne deux créations de poste. Dans le cadre de la nomination en qualité de fonctionnaire du nouveau directeur du service financier et juridique, et afin de pouvoir nommer un agent détenant le grade de rédacteur principal de première classe sur le grade d'attaché par la voie de promotion interne, il est nécessaire de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet et un poste d'attaché à temps complet. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer dans ce sens.
Question ?
Non, je disais belle promotion.
Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Les délibérations suivantes, et vraiment là, je vais encore regretter que M. Saussier ne soit pas parmi nous. À chaque fois qu'on supprime des postes, il n'est pas là.
Ah oui, mais là, on supprime des postes. un petit toilettage qui fait suite à la nomination par voie d'avancement de grade de plusieurs agents. Les postes suivants sont devenus vacants. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des postes qui ne sont pas à temps complet. Un poste d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de deuxième classe, à temps non complet à raison de 32,93 35e, c'était la délibération numéro 2014 de juillet, 117 du 7 juillet 2014. Un poste d'adjoint technique à temps incomplet également, mais cette fois-ci à raison de 19,75 35e, délibération numéro 2017 septembre, 117 du 11 septembre 2017. Ensuite, un poste d'adjoint technique à temps incomplet à raison de 24,35e, c'était la délibération numéro 2925 du 23 septembre 2009. Et enfin, un poste d'adjoint technique à temps incomplet également, à raison cette fois-ci de 25,35e, c'était la délibération numéro 2013 de mai. 084 du 13 mai 2013, il convient donc de les supprimer après un avis favorable du comité technique en sa séance du 21 septembre 2018.
Merci Monsieur Véler. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, des projet de délibération qui concerne la vie locale, la 139, une demande de subvention. Madame Galocher.
Merci, Monsieur le maire. L'année 2018 sera marquée par le centenaire de la fin de la guerre de 14-18. La municipalité propose de célébrer cet événement par une semaine d'animation du 8 au 18 novembre 2018 et tournée vers un large public, enfants, personnes âgées. L'objectif recherché par ce projet sont les suivants: contribuer à la conscience citoyenne des habitants, contribuer au devoir de mémoire, contribuer à la connaissance de l'histoire de France. Dans le cadre de cette semaine thématique, les animations sont les suivantes: sollicitation d'un acteur marionnettiste qui sera présent durant toutes les animations, dont le but est de discuter et de sensibiliser les différents publics sur la Première Guerre mondiale tout en faisant écho à notre époque. Programmation au sein de la médiathèque Claude Pasquier, une exposition d'art postal intitulée « La guerre en toutes lettres » du 16 octobre au 4 novembre 2018, d'une rencontre conférence sur les sportifs pendant la Grande Guerre, d'une soirée conte « Et si je te racontais la Première Guerre » le 8 novembre 2018, et enfin un atelier numérique avec des applications sur le thème de cette guerre. Également, programmation au sein de l'espace culturel de deux pièces de théâtre, le petit cabaret des cols cassés du 5 au 8 novembre 2018, le baiser de retour, les gardiennes le 10 novembre 2018 et au revoir là-haut le 17 novembre 2018, et des spectacles pour l'instant en cours d'élaboration. L'association du souvenir français est également un partenaire privilégié dans le cadre de cette semaine puisqu'elle proposera 8 ateliers, animations, conférences. Le département de Seine-et-Marne subventionne ce type de projet dans le cadre de leur dispositif devoir de mémoire. C'est la raison pour laquelle il est proposé au conseil municipal de solliciter l'aide financière du département et d'autoriser M. le maire ou son adjoint en charge du souvenir à signer tout document nécessaire à cette demande. Le montant attendu de cette subvention s'élève à 4 000 euros pour un budget global de 8 539 euros TTC.
Voilà. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas d'une semaine d'animation, mais de plus de 3 semaines d'animation. Donc, du 16 octobre au 18 novembre, je le dis à notre directeur de la communication sur la plaquette, ça ne s'arrête pas le 11 novembre, dans le petit texte d'accompagnement. C'est bien du 16 octobre au 18 novembre 2018 que s'échelonneront toute une série d'expositions, des conférences, des films, des spectacles, des animations. Enfin, c'est un programme d'une exceptionnelle richesse qui est porté d'ailleurs par une très très belle plaquette. Voilà, peut-être on peut la faire circuler. Oui, on la récupère. Voilà, c'est, elle est encore en travail, mais à part l'imprimer demain.
Les corrections.
Oui, mais c'est pas. Voilà, ne volez pas la plaquette avec les corrections. Mais... voilà. Donc, un petit rappel pour vous inciter à être très très présent dans ce moment-là. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité. La 140, candidature de la commune à l'appel à projet soutien au projet d'accueil et d'animation pour les jeunes de 11 à 17 ans. Et c'est Sandrine Nagel qui va nous la présenter. Et elle va faire circuler en même temps, je ne sais pas comment elle va faire. Avec une main le micro, l'autre main sur l'ordinateur.
Dans le cadre du projet de rénovation du City-Stade situé dans la plaine de Jeux dans la Marocurée, la municipalité a cherché à associer les jeunes résidents et les utilisateurs de la structure. Ainsi, un groupe référent de ce projet de 10 jeunes de 15 à 17 ans ont pu travailler avec le service de la vie locale et les élus pour définir les caractéristiques de la rénovation, utilisation de l'équipement, choix des matériaux. Un questionnaire a également été rédigé pour présenter le projet aux habitants et collecter leurs avis sur le City-Stade et son environnement proche. Ajout de bancs, tables, jeux pour tout petit. Dans la mesure où la participation du public ciblée à la réalisation de ce projet répond aux critères de l'appel à projet pour le soutien au projet d'accueil et d'animation pour les jeunes de 11 à 17 ans. Mise en place du département de Seine-et-Marne, il est proposé au conseil municipal de la candidature afin de solliciter une subvention sur les préparatifs de l'inauguration du City-Stade et d'autoriser Monsieur le maire ou Madame la conseillère municipale déléguée à la démocratie participative à signer tout document nécessaire à cette demande. Le budget alloué pour cette inauguration s'élève à 1 816 € TTC. Et le taux de subventionnement attendu s'élève à 50% du montant acheté. Les travaux du City-Stade auront commencé à la mi-septembre et se termineront durant les vacances de la Toussaint. La journée d'inauguration de la structure aura lieu le samedi 27 octobre 2018.
On traitera toutefois que le département n'est pas une enveloppe pour la construction. Pour l'animation, c'est toujours sympathique, mais voilà, le budget alloué à la réhabilitation du City-Stade et l'accompagnement, enfin, on a acheté du mobilier autour, c'est quand même pas loin de 50 000 € TTC. Hein. Donc voilà, bon, on va chercher une petite subvention de 900 €. Allez, pas de petite subvention, mais j'aurais préféré 50% d'aide sur la réhabilitation. Bon, y a-t-il des avis contraires à cette demande de subvention ? On casse pas le matériel. Hein.
S'il vous plaît. Oui, simplement, j'avais marqué le 27 octobre, mais est-ce que ce sera fini ? Parce que les vacances scolaires ne finissent que le 4 novembre.
Oui, non, ce sera terminé. Hein. Ouais. Non, ça c'est. Voilà, c'est... Le chantier doit bientôt démarrer. Bon, c'est un chantier relativement court. Hein. Même pour 50 000 €. Donc, qui s'y oppose, qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. La 141, donc c'est une confirmation en fait de la demande de subvention qui a déjà été présentée auprès de la CAF. Donc le micro pour Madame Charest.
Donc, dans le cadre de l'appel à projet donc, de la CAF, donc, qui s'appelle donc, c'est le dispositif Widou.
Il faut parler un petit peu plus fort. Ah,
je ne sais pas si je vais y arriver. Dans le cadre des dispositifs de la CAF, il y a notamment le dispositif Widou, qui est une plateforme participative, et la CAF propose des soutiens les projets élaborés par les adolescents et pour favoriser leur autonomie. Donc, dans le cadre du déplacement d'une délégation, d'un groupe de jeunes Donc ils sont partis à Cedo en août cette année. Ces derniers avaient été défendre leur projet devant un jury au niveau de la CAF. Et donc leur projet avait été retenu. Donc voilà, donc nous vous demandons au conseil municipal de bien vouloir voter cette demande de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale pour l'organisation d'échanges entre les jeunes de la commune de Cedo et la commune de Nangy. Voilà, et leur séjour s'est très bien déroulé. Et ils font une petite restitution de tout cela également pour vous montrer ce qu'ils ont pu découvrir pendant leur séjour et donc aussi ce que ça leur a apporté. Voilà.
D'accord, il fallait juste la confirmer par une délibération puisque donc ce projet a été défendu devant un jury avec succès.
Donc la CAF nous demande juste de la confirmer par cette délibération, ce que nous faisons ce soir.
Merci beaucoup. Des questions, des commentaires?
Simplement, c'est la question qu'on se posait parce qu'on voyait une demande de subvention et après vous mettiez qu'il y avait une subvention de 4 000 euros. Donc on ne comprenait pas très bien la première demande de subvention.
Oui, alors c'est que dans le cadre de l'appel à projet de la CAF, donc il faut la délibération. Ça se fait en deux temps. Donc voilà. Et donc, pour mémoire, nous avions également délibéré pour faire une demande de subvention auprès de l'OFAGE que nous avons obtenue.
Nous n'avions pas passé cette délibération en même temps. Donc voilà. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et nous avons là aussi un peu à remettre un peu les choses dans l'ordre, puisque nous allons nous prendre aussi ces délibérations un petit peu plus tôt, mais afin que nous puissions engager les dépenses. Madame Charret, prise en charge des frais dans le cadre des échanges.
Donc, c'est notamment dans le cadre de la coopération établie toujours avec la commune de Cedo. Donc, nous avons défini un programme d'échange. Donc, pour rappel, nous avons accueilli un groupe de 8 jeunes de Cedo de 13 à 17 ans du 12 au 19 juillet. Et donc, 10 jeunes mangiciens sont partis là-bas donc, du 30 juillet au 6 août. Donc, on peut dire que ces échanges ont été une véritable réussite, que les liens entre les partenaires ont été vraiment renforcés et que donc c'est pour cela que voilà, je pense que c'est un bel effort qui a été fait de la part des deux communes et que cet échange mérite d'être renforcé. C'est dans cet objectif-là qu'une délégation composée de 4 élus du conseil municipal s'est rendue à Cedo du 6 au 9 septembre, donc où nous avons pu rencontrer nos homologues élus allemands pour échanger sur le devenir notamment de nos échanges, qu'est-ce que nous voulions faire ensemble. Donc sur la base de la convention de partenariat signée entre les deux communes le 27 août 2016 et en application de l'article 1115-1 du CGCT, les services municipaux estimaient qu'une délibération pour la prise en charge des frais de ces échanges n'était pas nécessaire dans la mesure où n'impliquait pas d'élus municipaux excepté le séjour en septembre, et qu'il n'a pas été possible de l'anticiper. Ainsi, la demande du comptable de la collectivité, il est proposé donc d'autoriser la prise en charge de l'ensemble des frais liés aux échanges de la commune de Cedo pour l'année 2018. Donc voilà, c'est pour vraiment être tranquille en termes réglementaires. Comme ça, nous n'aurons pas de problème. Donc pour information, l'ensemble des frais liés au transport, aux cadeaux et aux visites donc, du 12 juillet au 9 septembre 2018 s'élève à 22 373,59 €, dont 5 886,62,24 € sera subventionné par l'OFAGE et 4 000 par la CAF. Voilà.
Donc, ce qui fait quand même un projet 50% de subvention.
Bien subventionné.
Voilà. Des questions, des commentaires? Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, quelques projets de délibération financiers. Madame Galochet, l'application de la délibération relative à la taxe de séjour.
Alors, l'application de la loi de finances rectificative numéro 2017-1775 du 28 décembre 2017, la Direction générale des finances publiques a publié le 16 mars 2018 son nouveau barème relatif aux taxes de séjour pour l'année 2019. Ce dernier impose aux collectivités de remplacer le tarif relatif aux hébergements en attente de classement ou sans classement
à l'exception des hébergements de plein air, par un taux compris entre 1 et 5% du coût par personne et par nuitée. Ce nouveau taux doit être voté avant le 1er octobre 2018 pour qu'il puisse s'appliquer au 1er janvier 2019. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à ce remplacement par un taux minimal, soit 1%, correspondant quasiment au tarif précédemment voté. Il est précisé que les autres tarifs demeurent inchangés, de même que toutes les stipulations de la délibération d'origine.
Voilà, un petit toilettage. Des questions ? Je mets aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Délibération est adoptée à l'unanimité. La 144. Donc, on annule et on remplace la décision modificative numéro 1 au budget annexe du Centre aquatique Aqualude.
En fait, 144 et 145, ça va aller ensemble. Si vous vous souvenez, au dernier conseil municipal du 2 juillet, on vous avait proposé une décision modificative par la ville pour impacter en crédit, bien entendu, les deux budgets annexes que sont le centre aquatique et les activités culturelles. Il y a eu... peut-être que je ne dis pas Madame Clef du service, il y a eu un petit raté et on avait juste impacté le budget annexe du centre aquatique Aqualude, alors qu'en fait c'était les deux budgets annexes qui devaient être impactés. Donc la décision de la ville n'est pas modifiée, celle du mois de juillet demeure. Par contre, il faut donc modifier et impacter en crédit la décision modificative pour le centre aquatique et également ensuite pour les activités culturelles. En gros, si on ne change rien de toute façon à ce qui devait découler pour la ville.
On a fait la précision budgétaire. On aurait pu ne pas le faire, mais c'est quand même mieux en le faisant. Des questions ? Je mets aux voix qui s'opposent à ces deux délibérations, donc la 144 et la 145 qui sont liées. Qui s'abstient ? Elles sont adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous avons donc la délibération 2018 septembre 146 que vous avez sur table. Monsieur Godard, vous pouvez nous la présenter ? Hop. Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie.
Non, parce que j'avais 147, pardon.
Ah ben oui, c'est 147.
L'agence de l'eau de Seine-et-Marne, AESM, aide financièrement les communes qui s'investissent dans la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Elle leur propose de participer à la hauteur de 50% à l'acquisition de matériel alternatif après application d'un prix de référence qui est fonction du type de matériel. Dans le cadre de la gestion zéro phyto, l'AESN a déjà subventionné la commune de Nangy pour acquérir une balayeuse désherbeuse en 2016. Cette année, la commune souhaite acquérir un nouveau matériel pouvant aider le personnel communal dans la démarche à la non-utilisation de produits phytosanitaires. Désherbeuse mécanique autonome pour un coût de 3 700 euros hors taxe. Réciprocateur à guidon pour un coût de 612,50 €. Le prochain programme de l'agence qui rentrera en vigueur à compter de 2019 ne permettra plus de financer l'achat de matériel zéro phyto. Par cette délibération, il convient donc de solliciter l'AESM à subventionner du matériel alternatif.
Je vous proposerai de modifier la délibération en indiquant que c'est une demande de subvention auprès de l'agence de l'eau et du conseil départemental qui subventionne aussi et qui s'est engagé à mieux nous subventionner puisque nous sommes donc une commune zéro phyto. Alors,
oui, c'est juste le département.
Hein ?
C'est pas plutôt la région ?
Non, non, c'est le département.
D'accord.
Non, pour ces départementales. Donc, conseil départemental, voilà, demande subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie, du conseil départemental de Seine-et-Marne. Et article 1, sollicite subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie et du conseil départemental de Seine-et-Marne pour l'acquisition de matériel de désherbage. Non, c'est le département qui pilote sur ces actions. C'est eux qui nous ont reçus à Blandy, les tours au château, et c'est eux qui pilotent effectivement une petite enveloppe, hein, pas excessive, mais.
D'accord, parce que il y a quelques années c'était le département, après c'est devenu la région, et donc d'accord, puis c'est de nouveau le département.
C'est comme ça.
Simplement pour mon information personnelle.
Un réciprocateur à guidon, hein, c'est quoi un réciprocateur à guidon, monsieur Godard? Alors, on va regarder, je vais vous montrer la photo. Hein.
Oui, non, mais
j'ai vu. C'est exactement
un débroussailleur. C'est un débroussailleur à fil.
Mais bon, on a appris un nouveau mot quand même ce soir. Réciprocateur.
Un gros
rotofilm.
Sans fil.
À la démonstration. D'accord. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Et ainsi, nous en avons terminé avec l'ordre du jour.
Monsieur Bidou, est-ce que je peux vous poser simplement une petite question que j'ai constatée aujourd'hui simplement? Aujourd'hui, ça a confirmé par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière, il y a des semi-remorques qui, arrivant de la déviation venant de Montereau, prennent la route de Fontainebleau, tour à droite, pour rentrer en ville dans l'Angie. Ils passent devant donc l'Intermarché, le rond-point, et ils vont en direction de Melun, et là ils tournent sur Fontenay. De manière, ça leur évite de faire le stop au bout de la déviation. Donc, est-ce que c'est permis ou pas?
Non.
Ça fait plusieurs fois que je le remarque, et donc ces camions, en plus, dans le virage devant l'Intermarché, devant le truc, on a du mal à passer.
La circulation des poids lourds est interdite dans la traversée du centre-ville, sauf pour la desserte locale.
Voilà. Hein,
on transmettra.
Oui, et ce sont des camions de Gaël. C'est des camions de Mormant.
Ah oui, d'accord. Bon, ils ont mis en place une stratégie de contournement, c'est ça?
Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, non, mais okay. Donc là, ça impacte.
Non, mais on appellera directement l'entreprise pour qu'ils fassent passer le message. Merci, monsieur. Chers collègues, la séance est levée. Et merci au public, un peu rare, hein, mais voilà. Oui.